I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace où nous parlons de la planète Mars et en particulier de l'exploration martienne par l'Europe spatiale avec Mars Express en compagnie de notre invité François Forget. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes François Forget, chargé de recherche au CNRS à l'Institut Pierre-Simon Laplace et vous êtes membre de l'équipe scientifique de la sonde européenne Mars Express. Alors, Mars Express est en orbite autour de Mars depuis Noël 2003. Pourquoi Mars Express ? Pourquoi Express dans Mars ?
Ah oui, il y a toute une histoire derrière ça. L'origine de Mars Express, c'est une autre mission. Une mission très ambitieuse qui faisait plusieurs tonnes, qui s'appelait Mars 96, qui était une mission russe. Qui était organisée principalement par la Russie, mais avec une très forte contribution européenne et notamment de nombreux instruments, donc des caméras, des spectromètres, etc., qui étaient fournis par l'Europe. Et il y avait même des atterrisseurs, des sismomètres qui étaient fournis par l'Europe. C'était une mission très ambitieuse qui a été donc lancée en novembre 96 vers Mars sous le regard de toute l'Europe et de la Russie. Et malheureusement, la mission a fini au fond de l'océan Pacifique. Il y a eu un problème lors de l'injection vers Mars. Et donc, du jour au lendemain, on s'est retrouvé sans projet, les ailes coupées, pour ce qui est de la science martienne européenne. Alors, tout ça, bien sûr, était très triste. Et comme toujours, on essaye toujours de faire renaître les missions de leurs cendres. Alors là, c'était avec le dynamisme des chercheurs qui étaient impliqués dans ces projets-là, hein. C'est les chercheurs qui sont encore actuellement impliqués sur Mars Express, Jean-Pierre Bimering, Jean Louberteau, plus des acolytes à l'Agence spatiale européenne. Et bien on s'est dit, il faut faire renaître ce projet de ses cendres, et tout simplement il faut que l'Europe envoie un orbiteur pas trop cher. Les instruments existent déjà, le savoir-faire on l'a, c'est quand même pas si compliqué, et on va envoyer une mission de remplacement pour faire voler ces instruments, ces caméras autour de Mars. Et on a trouvé quelques millions d'euros, à l'époque déjà, quelques millions d'euros pour faire ça, alors des grosses sommes d'argent. Et puis on a trouvé des gens compétents, un grand savoir-faire pour le faire, parce que malgré tout, c'était Mars Express, c'était censé être fait très vite et pas cher, mais c'était la première mission européenne qui allait se mettre en orbite autour d'une autre planète. C'était quand même un formidable défi qui a été réussi.
Est-ce que c'est compliqué de se mettre en orbite autour de Mars quand on regarde les statistiques des missions martiennes, qu'elles soient soviétiques au départ, puis russes maintenant, en tout cas soviétiques pour l'essentiel, américaines, le taux d'échec est absolument gigantesque. Plus de 50% des missions ne sont jamais arrivées ou ont été détruites. En quoi est-ce un exploit aujourd'hui encore de se mettre en orbite autour de la planète rouge ?
Effectivement, c'est très compliqué. Moi, je voudrais juste rajouter un exemple personnel. C'est que personnellement, moi, je fais ce métier depuis le début des années 90. Ma première mission sur laquelle j'ai travaillé, c'était Mars Observer, explosé en arrivant. Ensuite, j'étais très impliqué dans Mars Climate Orbiter. J'étais pour la mise en orbite au JPL, qui est une sonde de la NASA. Le 23 septembre 99, on a brûlé dans l'atmosphère. Donc apparemment avant j'avais travaillé sur Mars 96 qui était tombé au fond de l'océan Atlantique, donc c'est très très difficile. Pourquoi c'est difficile ? Parce que il faut on doit à la fois faire une gestion, une trajectoire parfaite, hein, il faut pas passer trop bas sinon on brûle dans l'atmosphère, si on passe trop loin on rate la planète, on sait de plus en plus le faire, mais des fois il y a des erreurs, c'était le cas pour Mars Climate Orbiter. Et il faut aussi au moment de l'arrivage réveiller une sonde qui était endormie depuis plusieurs mois dans l'espace. Et je vais vous donner un exemple, sur Mars Observer, on a dû touiller un peu les réservoirs avant d'allumer le moteur, la rétrofusée qu'on allume pour arrêter, freiner la sonde pour la mise en orbite. Et il faut allumer un moteur fusée, il faut réveiller des réservoirs qui ont pu être gelés, et c'est très dangereux, d'où l'explosion notamment de la sonde de Mars Observer, donc en 93. Alors pour Mars Express, c'était un très grand suspense. Là on est à Noël, donc c'était le jour de Noël, la nuit de Noël, il faut quand même le faire, en 2003. Et il y avait un grand suspense, c'était un grand moment, mais tout s'est passé à merveille.
Alors, sauf pour le petit instrument Beagle, qui est un des instruments de Mars Express et qui est un atterrisseur conçu pour se poser à la surface de la planète comme un petit laboratoire. et qui lui disparaît corps et bien à la surface de la planète rouge, donc à Noël. Sait-on ce qui s'est passé ?
Oui, alors Beagle, c'était... il faut bien voir que sur, cette, sur Mars Express, on a des instruments, c'est très européen. Chaque instrument, la caméra, le radar, est fourni par un pays différent. La France en fournit deux, etc. Et les Anglais ont dit, non, nous, on ne va pas fournir d'instruments. Nous, vous nous donnez la même masse à peu près, et nous, on va faire un petit atterrisseur qui va descendre à la surface. Quelque chose de très petit, bien plus petit que tous les autres atterrisseurs qui avaient été construits. C'est vraiment quelque chose de miniature, très ambitieux, magnifique sur le papier. Et donc, on arrive là, Mars Express et Beagle ont volé ensemble vers Mars jusqu'au 19 décembre, hein, quelques jours avant l'arrivée sur Mars. Et puis, on a éjecté Beagle, on l'a pointé vers sa destination, qui était un grand cratère sur Mars, qui s'appelle Isidis Planitia. Et on l'a pointé, tout s'est bien passé, le pointage était parfait, Beagle est parti, et ensuite on n'a plus une nouvelle, parce qu'on n'avait pas prévu de système de communication pendant les quelques jours, pendant lesquels, d'une part, Beagle se diriger vers la surface, vers Isidis Planitia, et pendant la même période, à la même vitesse quasiment, Mars Express, après une petite correction, allait se mettre en orbite autour de la planète. Et donc, au même moment, la nuit de Noël, tandis que Mars Express se mettait en orbite, Beagle rentrait dans l'atmosphère. Il est certainement entré dans l'atmosphère, puisqu'il était parfaitement dirigé dans la direction. Et puis, il était censé rentrer, ouvrir un parachute, un deuxième parachute, des airbags pour amortir le choc, se poser, se déployer, sortir une antenne et communiquer avec la Terre. On n'a jamais eu de nouvelles. Alors, on peut imaginer que c'est l'antenne, à la toute dernière fin, qui s'est cassée, on n'a jamais pu communiquer. Bon, pourquoi pas. Ou alors que, dès les premiers contacts avec les hautes couches de l'atmosphère, Beagle, parce qu'il y avait un défaut, a brûlé. On ne sait pas à quel moment. Est-ce que c'est le parachute? Est-ce que c'est le bouclier? Est-ce que c'est les airbags? Est-ce que c'est l'antenne en arrivant qui n'ont pas fonctionné? Toujours est-il qu'on n'a jamais eu de nouvelles. Et donc, malheureusement, ça a été une grande déception, parce qu'évidemment, sur une mission comme celle-là, l'atterrisseur, c'est quelque chose d'extrêmement excitant. On va avoir des images à la surface, etc. Bon, il faut bien voir aussi, à l'époque, on disait, grand échec, etc. Bon, en même temps, on avait Mars Express, bardé de 7 autres instruments qui s'est mis en orbite et qui s'est mis à travailler et à commencer sa mission de cartographie de la planète.
Alors, Mars Express, 7 instruments, dites-vous, une planète qui est déjà beaucoup observée par les sondes américaines en particulier. Quelles sont les destinations de ces instruments et sur quoi se sont focalisés les scientifiques européens pour découvrir pour la première fois Mars avec leurs propres instruments? Quels sont les objectifs de la science martienne?
Alors vraiment, Mars Express, c'était conçu pour observer Mars sous toutes les coutures. Alors en termes d'astronomie, ça veut dire sous toutes les longueurs d'onde. Alors on a un radar qui va avec des grandes antennes, qui va sonder le sous-sol. On ne l'avait jamais fait. Donc c'est la première fois qu'on va sonder le sous-sol de Mars pour essayer de découvrir s'il y a des couches géologiques, voire peut-être des nappes aquifères d'eau liquide, etc. Bon, on n'a toujours pas observé. Par contre, ce radar donne des résultats. On voit des couches, on arrive à sonder à travers les calottes polaires. C'est des résultats récents et passionnants. Ensuite, on a, par quoi commencer ? Bien sûr, une caméra d'un type nouveau, une caméra fournie par l'Allemagne, qui est d'un type nouveau, qui est stéréo, couleur. On n'avait pas eu vraiment d'imagerie couleur récente, moderne sur Mars, et puis en plus stéréo, donc avec plein d'astuces qui permettent de faire des images assez spectaculaires. Je pense que peut-être certains auditeurs les ont déjà vues. On peut reconstituer une montagne vue de côté, etc. Et c'est une caméra qui va donner énormément d'images fascinantes et de résultats scientifiques, parce que c'est une image grand champ qui permet de compter les cratères, qui est la spécialité du responsable de l'instrument d'ailleurs. Mais on a pu découvrir de très nombreuses choses. Je citerai des choses qui m'ont particulièrement intéressé, sur lesquelles j'ai travaillé, sur la découverte notamment de glaciers pas si anciens que ça, qui ont quelques millions d'années, et plus des volcans, des observations très nouvelles, des calottes polaires, enfin énormément de nouvelles observations qui passionnent les géologues. À ça s'ajoute, alors on va continuer, une autre caméra. Alors c'est ce qu'on appelle un spectro-imageur. C'est une caméra qui est à la fois un spectromètre, donc elle fait des images, et pour chaque image vous avez des spectres, et des spectres qui sont obtenus à une longueur d'onde qui est le proche infrarouge, c'est-à-dire c'est de la lumière solaire réfléchie mais qu'on ne voit pas à l'œil nu, et qui est très intéressante parce que ce sont des longueurs d'onde qui sont capables de détecter de nombreuses signatures de minéraux à la surface de Mars. Alors pour des raisons qui sont assez étonnantes d'ailleurs, la NASA n'avait jamais observé Mars à ces longueurs d'onde-là, dans le proche infrarouge. Pour être très précis, pour les spécialistes, entre 1 et 5 microns. Eh bien, la NASA n'avait jamais embarqué d'instrument pour faire ça. Et elle avait eu grand tort, parce que cette caméra qu'on appelle Omega, qui est fournie par la France, qui a été construite à Orsay, le responsable c'est Jean-Pierre Bibring, a découvert énormément de choses, et notamment faire la cartographie de la minéralogie de la surface et découvrir énormément de choses qui ont révolutionné notre compréhension de la planète Mars telle qu'elle fonctionne actuellement, où est-ce qu'il y a de la glace d'eau, où est-ce qu'il y a de la glace carbonique, où est-ce qu'il y a des nuages, etc. Et surtout, notre compréhension de la planète Mars, cette autre planète Mars très ancienne, qui a plus de 3,5-4 milliards d'années. Et là, cette caméra Omega a découvert notamment des sulfates, un peu comme avait découvert Spirit en parallèle, mais alors là, a pu faire la cartographie de ces sulfates. Ces sulfates, je rappelle, ce sont des sels qui semblent avoir été laissés, en tout cas formés en présence d'eau liquide, mais alors dans un passé très acide, relativement aride, et peut-être récent, à la fin de cette période de l'enfance de Mars, on va dire. Et puis, plus récemment, Omega a découvert et cartographié dans certaines régions, dans certains terrains extrêmement anciens, des argiles. Alors, vous allez me dire, des argiles, bon... Sur Terre, on en a partout, c'est pas très original. Non, non, des argiles, c'est quelque chose qui se forme sur Terre, et probablement aussi sur Mars, en présence d'eau liquide, milliers d'années après milliers d'années. Il faut une altération extrêmement lente des sols pour former des argiles. Et donc, cette découverte-là indique qu'on a eu un environnement, alors là, il y a très longtemps, il y a peut-être 4 milliards d'années, je sais pas comment mettre des dates, hein. Avant, en tout cas, cette histoire de sulfate, de ce milieu aride et un peu acide, non, non, dans un environnement qui ressemblait à la Terre, plus, où il y avait probablement des lacs, des rivières, peut-être un océan. Si Jean-Pierre Bury m'entend, il sautera sur sa chaise, il est persuadé qu'il n'y a pas eu d'océan, pour de bonnes raisons d'ailleurs, parce que justement, Omega n'a pas observé de traces d'océan dans l'hémisphère nord, bon, je ne vais pas développer là-dessus, mais Omega vraiment a permis de faire beaucoup de choses. Alors je continue, alors je ne peux plus m'arrêter, la visite des différents instruments. On a aussi un autre instrument français, qui est construit par un laboratoire qui s'appelle le service d'aéronomie, le responsable c'est Jean Louberto, qui est un spectromètre, deux spectromètres en fait, dédiés à l'observation de l'atmosphère, et dont un qui est un spectromètre ultraviolet. Là encore, on n'avait quasiment jamais observé Mars avec un tel spectromètre, et qu'est-ce qu'on a pu observer? On a pu observer très bien l'ozone, et donc l'ozone, bon pourquoi pas, mais surtout comprendre vraiment comment fonctionne la chimie de l'atmosphère de Mars, et en particulier comment des produits stérilisants du style eau oxygénée se forment via une chimie qui fournit de l'ozone d'une part, mais aussi de l'oxygène, et a pu stériliser une partie de la surface, très important pour comprendre comment la vie a subsisté à la surface. On a observé pléthore de choses, la structure thermique de la haute atmosphère, ce qui m'intéresse moi particulièrement, des aurores par exemple, on avait jamais observé ça sur Mars, on a observé tout plein de choses, des nuages, on a aussi un petit spectromètre infrarouge qui est associé à ça, très léger, très performant, très intéressant. Où en étais-je donc? On continue notre liste d'instruments, j'ai parlé du radar, de la caméra, des deux spectromètres. À cela, on peut ajouter un autre spectromètre qui est fourni essentiellement par l'Italie, spectromètre infrarouge dédié à la détection de composés dans l'atmosphère de Mars, en particulier une observation qui a fait grand bruit, c'était la détection de méthane. Alors c'est une observation encore controversée, si vraiment il y a du méthane dans les quantités qui sont observées. C'est une découverte assez extraordinaire, parce que ça veut dire soit il y a du volcanisme très actif, soit peut-être il y a de la vie, parce que le méthane sur Terre c'est de la vie. Bon, tout ça avec beaucoup de guillemets, parce que la détection est vraiment à la limite des capacités de l'instrument, et beaucoup de chercheurs, y compris des membres de l'équipe, restent sceptiques. Malheureusement, il faudra d'autres missions pour confirmer ou pas la présence de méthane, mais cet instrument a permis de faire de la météorologie vraiment de très bonne qualité. Donc voilà tout un ensemble de choses, et j'arrête pour conclure. Un dernier instrument qui s'appelle Aspera, qui est suédois, qui observe l'environnement spatial autour de la planète.
Alors François Forger, vous allez nous expliquer comment ça se passe au quotidien quand on travaille en tant que membre de l'équipe scientifique Mars Express, avec autant de données, en sachant que la deuxième année de Mars Express autour de la planète rouge est en train d'être bouclée. Comment ça se passe au quotidien? Vous recevez des images, vous recevez des données, c'est un flot, comment vous traitez cela?
Alors tout commence non pas par recevoir les données, mais par préparer l'observation. Il se trouve que Mars Express a une orbite excentrique, c'est-à-dire que vous avez une grande partie du temps où elle est loin de la planète, et puis de temps en temps, à peu près trois fois par jour, elle plonge près de la surface, à quelques centaines de kilomètres, et là, tous les instruments vont se braquer sur la zone qu'elle va survoler, et vont prendre des photos, des spectres, etc. Et à chaque fois, il faut programmer, il faut choisir ce qu'on va observer, parce que des fois, on peut observer sur le côté, etc. Et chaque orbite, quasiment, est une nouvelle mission. En plus, il n'y a pas des ressources pour tout le monde. Tous les instruments ne peuvent pas fonctionner en même temps. Donc, il y a un débat. C'est assez étonnant à suivre parce qu'il faut partager le temps d'observation, il faut partager le débit de données entre Mars, disons, et la Terre. Et c'est comme l'Europe. Il y a des grandes disputes, des négociations. C'est passionnant. Ça se passe bien. Hein, ça se passe bien. On voit, il y a un très bon bilan. Et donc, après cette préparation qui prend énormément de temps. Alors je dois avouer que c'est pas moi qui fais ça. Hein. Moi je suis plutôt je m'occupe de. J'ai un titre qu'on appelle interdisciplinary scientist, donc je m'occupe d'essayer de coordonner et d'aider avec des modèles l'interprétation des observations pour toutes les équipes. Mais il y a surtout les équipes qui s'occupent des instruments, qui eux doivent programmer les observations et qui travaillent énormément. Et ça leur prend un temps énorme. Ensuite, on reçoit les observations et là vous avez toute une équipe scientifique. On peut parler du jargon parce qu'on l'utilise tellement que j'ai envie de le partager. Alors vous avez, pour un instrument, vous avez le responsable scientifique qu'on appelle le principal investigator, l'investigateur principal. Dans le jargon, on appelle ça un PI. Et puis vous avez toute une équipe de ce qu'on appelle les co-I, les co-investigateurs, qui sont habilités officiellement, financés pour recevoir les données et les étudier, les interpréter. Alors généralement, dans les équipes scientifiques, on se partage un peu le boulot. Tiens, toi, tu vas t'occuper de cartographier la vapeur d'eau. Toi, tu vas t'occuper de cartographier la poussière. Toi, tu vas t'occuper d'essayer d'estimer, etc., etc. Donc, on se partage le travail, on reçoit les données et chacun travaille avec pour objectif. Puis, on se réunit, on discute, typiquement, cette recherche-là, c'est soit on fait des cartes, puis bon, ça correspond à ce en quoi s'entendait, mais on l'a de manière plus précise. Mais très souvent, ça correspond pas et on soulève une nouvelle énigme. Oh! J'observe de l'eau là, c'est impossible, mais non, mais si. Et alors là, on fait des modèles, on essaie de comprendre comment est-ce que c'est possible. Et sans arrêt, on travaille comme ça. Donc il y a une. Au quotidien, c'est de l'exploration et une résoudre des énigmes.
Est-ce que l'information scientifique se partage avec les Américains qui, en ce moment, ont des sondes en orbite autour de la planète rouge ou ont des robots sur Mars ? Est-ce qu'on est dans l'échange ou est-ce qu'on garde chacun ses résultats ? Et finalement, c'est une compétition et on publie et au premier, la palme en quelque sorte.
On pourrait dire ça. Qu'il y a une certaine compétition dans le prestige, dans les médias, mais au niveau scientifique, la compétition, personnellement, je pense qu'elle n'est pas si forte que ça. Alors, il y a plusieurs raisons. La première, déjà, c'est que au niveau international, je vous parlais tout à l'heure des équipes, des instruments, des co-investigateurs, des co-I, eh bien, il y a des Américains dans toutes les équipes. De même qu'il y a des membres européens, français, dans les équipes des instruments américains.
Donc, il y a des Américains sur Mars Express.
Absolument. En toutes les équipes, qui sont très actifs et très, très performants. D'autre part, il faut bien comprendre qu'on est une poignée de personnes à travers le monde, de chercheurs, qui devons essayer de comprendre une planète entière, un monde, quelque chose d'extrêmement compliqué. Et je vous assure qu'il y a du travail pour 10 fois plus que nous. Donc, il n'y a pas tant de compétition que ça. Il y a des fois des débats scientifiques. Des fois, on a envie d'être le premier, mais en façon, si on n'est pas le premier là-dessus, de toute façon, on a trop de travail pour tout le monde. Donc, de toute façon, on se partage le travail, il n'y a pas de problème. Alors, si on veut aller plus dans le détail, actuellement, vous avez une nouvelle sonde américaine qui s'appelle Mars Reconnaissance Orbiter, qui a de nombreux points communs avec Mars Express. Quelque part, Mars Express était une forme de précurseur pour cette sonde Mars Reconnaissance Orbiter. Bien tout simplement, Omega, qui est un spectromètre, pour donner cet exemple, hein, qui est un spectromètre donc proche infrarouge, vous savez, qui fait la cartographie de la minéralogie dont je parlais tout à l'heure. Eh bien, à bord de cette sonde Mars Reconnaissance Orbiter, qui arrivait 2 ans plus tard, vous avez un super Omega, qui s'appelle CRISM, qui est un instrument un peu similaire, mais qui travaille à plus haute résolution. Eh bien, tout simplement, on a presque mélangé les équipes. On a dit, bah voilà, nous, CRISM, on a besoin de vos données parce qu'on va observer là où Omega avait des choses intéressantes, mais on va l'observer à plus haute résolution. Et puis en échange, bah voilà, vous avez le droit d'accéder aux données, continuez votre recherche. De toute façon, il y a du boulot pour 10 000, donc là, on est 20. Il n'y a aucun problème.
Alors, Mars Express a fait école puisqu'il y a Vénus Express qui est parti dans une autre destination, la planète Vénus, donc plus près du Soleil. Même principe, même concept, utilisation d'instruments déjà existants. Et là aussi, l'Europe en orbite autour d'une planète originale.
Même concept, ça pourrait même être Vénus Express, parce que là, à un moment donné, on avait un petit peu d'argent qui s'est libéré à l'Agence spatiale européenne. Hein, je parle gros sous, mais c'est comme ça en pratique, la programmation. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Quelqu'un dit, oh, on pourrait faire Mars Express 2. Parce que les instruments qui ont été construits pour Mars Express, on en a beaucoup, on a les mêmes, pour Mars Express d'ailleurs, ou pour une autre sonde qui s'appelle Rosetta, qui est partie, une autre sonde de l'Agence spatiale européenne, qui est partie pour aller explorer l'environnement d'une comète. On avait des instruments qui étaient sur les étagères, comme on dit, qui étaient encore disponibles, des instruments de rechange, et on s'est dit, bon voilà, peut-être on pourrait faire Mars Express 2, on met tout ça, puis on relance, puis on continue. Et puis non, il y a des gens qui ont une meilleure idée, mais non, on pourrait aller sur Vénus, parce que ces mêmes instruments, on peut faire une très très bonne science sur Vénus, d'ailleurs, voilà, on peut faire ça, ça et ça, ah oui, tout à fait. Et ça, c'était, je vous assure, c'était 2 ans et demi avant le lancement. Personnellement, moi, j'ai parié que c'était impossible de le faire aussi vite. Mais tout simplement, les industriels qui avaient construit Mars Express ont dit, nous, on fait le même, avec des plus petits panneaux solaires, parce qu'on est plus près du Soleil. On fait le même, on met les instruments, envoyez-nous ce que vous avez, on les met, on l'envoie, et ça fait Venus Express. Et c'est un succès, ça marche parfaitement bien, et la science est extraordinaire.
Alors, ce qui mettrait un tout petit peu plus de temps, et c'est pour conclure, c'est la prochaine mission européenne à destination de Mars, baptisée ExoMars, et pour l'instant programmée pour 2013.
Voilà, dans un cadre un peu différent, là, on s'est dit, il faut quand même continuer cette exploration, non pas uniquement pour la science, mais parce que Mars, c'est au-delà de ça, il y a une vraie volonté du grand public, et puis c'est l'avenir du vol humain, etc. Alors plutôt que mettre de l'argent, trop d'argent dans la station spatiale internationale, on va prendre un tout petit peu, puis on va préparer des missions vers Mars. Alors bon, on s'est dit, tout de suite, on va pas aller planter une tente pour les futurs astronautes. Non, on va quand même essayer de voir si on est capable de descendre à la surface de Mars. On a parlé au début qu'on avait pas réussi à déposer Beagle. Et on s'est dit, on va essayer de poser quelque chose à la surface de Mars. Faut quand même apprendre à le faire à un moment donné. Et puis là, on va pas rester mobile, on va faire un rover. Et puis on va s'intéresser à une science qui a pas encore été vraiment développée, qui est un domaine très important en Europe, qui est d'essayer de comprendre ce qu'on appelle l'exobiologie, d'où le nom ExoMars. L'exobiologie, c'est-à-dire d'essayer de comprendre s'il y a pu avoir de la vie sur la planète, quelle est l'origine de cette planète, quel est l'environnement, etc. Donc il y a des instruments qui ont été préparés pour ça, et puis actuellement ça y est, le budget est là et on prépare ce rover qui fera 150-200 kilos qui va se poser à la surface de Mars en 2013-2014.
L'aventure continue. Merci François Forget, merci à vous d'avoir suivi ce podcast de Ciel Espace, et évidemment rendez-vous au prochain épisode.
À tous, attention pour le décompte final. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain.